La revue de presse. Bonjour François-Xavier Frolland.
Bonjour.
Alors, à la une, justement, la visite historique de John Kerry à La Havane ce vendredi.
Oui, une petite révolution. C'est le titre en une de Libération ce matin avec en photo, pleine page, un jeune Cubain assis sur les marches d'entrée d'un immeuble en ruine au milieu d'une rue en mauvais état, sans doute du vieux La Havane. Et par coquetterie, ce jeune homme a posé un drapeau américain sous ses fesses pour ne pas salir son beau pantalon blanc. Il regarde vers le ciel comme s'il attendait le Messie. Une photo qui en dit long donc sur l'attente des Cubains. L'économie cubaine reste archaïque, lit-on dans Libération. Peu industrialisée avec un secteur rural très important, Cuba est l'un des derniers pays où subsiste le carnet de rationnement, la fameuse libreta. Fierté de la révolution, la santé et l'éducation sont mal en point. La population survit grâce au système D. Voilà pour le tableau. Alors les capitaux étrangers sont les bienvenus, même s'il faudra attendre avant la levée totale de l'embargo qui peut prendre encore plusieurs années.
Une visite de John Kerry où l'on va éviter les sujets qui fâchent, François-Xavier.
Comme le souligne encore Libération, l'opposition a d'ailleurs accusé le coup en apprenant qu'aucun de ses membres ne serait convié au lever de drapeau américain ce vendredi. Le quotidien a donc joint par téléphone à des opposants, Antonio Rodiles, qui constate, malgré l'ouverture dont se targue le régime, les brimades dont les opposants sont toujours l'objet. Récemment, lors d'une marche, nous avons été pris à partie par une turba, un groupe de sbires du régime. C'est la méthode habituelle, dit-il, pour nous intimider. Pour cet opposant, depuis le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, la situation a empiré. Antonio Rodiles regrette dans Libération que les contacts avec l'ambassade des États-Unis se soient raréfiés. Mais comme l'explique le Figaro, John Kerry vient à Cuba pour tourner la page. Il va rouvrir cette ambassade, justement, après plus de 50 ans de brouille diplomatique pour l'administration Obama. Cette visite s'inscrit dans un processus de normalisation de la relation bilatérale censé changer progressivement la dynamique interne de la société cubaine et faire évoluer le régime, estime le Figaro.
Et cette visite, elle coïncide avec le 89e anniversaire de Fidel Castro, hier à La Havane.
Le Parisien publie une photo de l'ancien leader Maximo assis dans une voiture à côté d'Evo Morales, le président bolivien, et de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Tout sourire, l'ancien leader de la révolution, lui, apparaît encore plus amaigri, toujours plus voûté, mais bien vivant, fidèle, toujours plus vieux, mais toujours réactif. Il aurait rappelé dans une lettre, selon le Parisien hier, les millions de dollars que les États-Unis doivent à Cuba en compensation de l'embargo imposé à l'île communiste en 1962.
À la une encore, d'autres îles qui font beaucoup rêver.
Les îles grecques, débordées par les migrants, constate le Parisien, qui égrène le chapelet des îles touchées par cette arrivée massive de réfugiés syriens et afghans pour la plupart. Lesbos, Kos, Chios, Samos, Leros, Kalymnos, des îles de rêve, synonymes de plages de sable fin, de criques pour les vacanciers européens, qui arrivent d'ailleurs aussi en nombre cette année. Ces îles de la mer Égée n'offrent plus seulement des images de cartes postales, constate le Parisien. Pour mettre un pied en Europe, les migrants, eux, n'ont que quelques kilomètres à parcourir depuis les côtes turques en canot pneumatique. En janvier, cette route a été empruntée par 1700 personnes, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. En juillet, par 50 000, la plupart sont des jeunes diplômés, des adolescents en quête d'avenir. Ils rêvent tous de Suède, d'Allemagne ou de Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne, elle, ne fait pas rêver les salariés d'Eurotunnel.
Le mur de sécurité pour éviter que les migrants ne s'infiltrent dans le tunnel pour fuir en Angleterre mine le moral des employés de la société, selon l'Humanité. Ceux qui assurent les allers et retours entre Calais et l'Angleterre sont victimes de détresse psychologique, à l'en croire. Aujourd'hui, nous travaillons dans un camp militaire avec des barbelés tout autour. Nous sommes formés spécifiquement pour conduire des trains, pas pour tuer des gens, déplore un cheminot qui, la nuit, patrouille pour surveiller le site.
Les Échos nous parlent de futurs îlots du libéralisme.
C'est assez incroyable. Financés par un milliardaire, des partisans d'un libéralisme intégral proposent d'établir des colonies sur des villes flottantes, hors des eaux territoriales. Pas seulement pour fuir l'impôt, mais pour sauver le monde, selon les Échos. À grand renfort de nouvelles technologies. Alors sur une photo, on découvre ces îles artificielles testées grandeur nature avec des tours modernes moderne, des jardins. Dès 2020, une d'entre elles pourrait accueillir 300 habitants sur une plateforme d'environ 3000 mètres carrés en béton renforcé. Ce projet ne procède pas exclusivement de la volonté de faire de l'argent, selon les Échos. Il veut enrichir les pauvres, nourrir ceux qui ont faim, soigner les malades, vivre avec la nature, nettoyer l'atmosphère et les mers. C'est un projet libéral écologique, peut-on dire. Les internautes qui s'y intéressent déjà ont inventé un nom, Liberland.